Qui est le Christ? Pour certains, c'est un sage parmi les sages, à l'instar d'un Confucius ou d'un Gandhi. Pour d'autres, il est un homme dont l'histoire a peu gardé la trace en dehors du Nouveau Testament. Pour d'autres encore, il est essentiellement le fondateur du christianisme, une religion monothéiste parmi les autres. Pour les musulmans, il est un prophète, ce qu'il est aussi pour certains juifs, encore aujourd'hui, alors qu'il n'est qu'un rabbi, un enseignant pharisien pour d'autres. Ce qui veut dire en clair que pour beaucoup de nos contemporains, Jésus-Christ ne représente rien, pas grand-chose ou parfois un petit quelque chose. Et pourtant, jamais prétention à être autre chose qu'un être n'a émergé avec tant de force dans l'histoire de l'homme. En effet, pour le Nouveau Testament et l'Ancien, nous le verrons, tout converge vers lui et en lui. C'est en lui que s'entrecroisent les axes du ciel et de la terre, de la seigneurie et du service, de l'ultime et de l'intime, de la vérité et de la vie, de la création et de la rédemption. C'est pour ça que la Bible dit de lui qu'il est l'alpha, le commencement de toute chose, à l'origine des origines, et qu'il est aussi l'oméga, au siècle des siècles, celui dont la vie ne se termine jamais car il est éternel. Il est celui qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur, comme le dit le Nouveau Testament. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que cette concentration dans le Christ s'impose comme un phénomène absolument unique et sans pareil. Aucune autre religion n'a osé attribuer autant à son fondateur, et de loin. Les prétentions de Mahomet, l'apôtre d'Allah ou de Bouddha, l'illuminé par excellence, ne se comparent pas à celles de Jésus selon le christianisme. Ces prétentions sont bien, comme l'a écrit Paul dans sa première lettre à l'église de Corinthe, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Tout a été concentré dans la personne du Christ. Tout converge vers le Christ, en particulier l'Écriture sainte, la Bible, Ancien Testament compris. Je vous lis l'enjeu de ces deux prochains messages, ce sera de voir en quoi l'Ancien Testament peut être considéré comme étant christologique. N'est-ce pas en effet par Jésus-Christ et par lui seul que nous découvrons la vérité de Dieu et de l'homme? Et je citerai ici Blaise Pascal et l'une de ses pensées. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de lui, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes, et vous m'excuserez la formulation, mais c'est du français du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Nul ne connaît le Père sans la révélation que lui en fait le Fils. C'est ce que Jésus dira déjà dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Il dira « Mon Père m'a tout donné ». Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce qui signifie que ce que l'on découvre du Christ l'est a posteriori. Même lorsqu'on a accès à une certaine connaissance préalable, cette connaissance est donc alors une antichambre quelque part et non pas la révélation de Dieu. Car pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait illumination du Saint-Esprit. Jusqu'à ce moment d'illumination, on entend sans véritablement comprendre, jusqu'au jour où ce qui est nécessaire pour être sauvé est entendu et révélé. C'est ce que Paul explique dans sa lettre à l'église de Corinthe. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus, c'est le Père qui rend capable, hein, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés, de nos péchés. C'est à la conversion que l'on a cette révélation que Dieu est Dieu et que le Christ est le Sauveur du monde. Par contre, et c'est ce que Paul veut dire, personne n'a la vision de Jésus-Christ que Paul va donner par la suite dans cette même lettre à l'Église de Colosse, et personne ne possède cette compréhension de la réalité des choses concernant Dieu et le Christ. Même au moment de la conversion, le peu qui est illuminé est nécessaire et suffisant pour venir à Dieu. Mais vous ne savez rien de Dieu. Nous sommes des bébés quand nous venons à Dieu, forcément. Nous sommes des bébés spirituels. Voilà ce que Paul dit en Colossiens 1. C'est un de mes passages préférés de toute l'Écriture. Voilà ce qu'il dit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, l'alpha, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude, la plénitude de Dieu, que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. À la conversion, mes amis, vous ne comprenez pas tout ça. Forcément, vous ne pourriez pas. On ne va pas demander à un bébé de s'enfiler les bouquins de christologie d'Henri Blocher, par exemple. Le pauvre aurait bien du mal. Autrement dit, tout cela s'apprend. Ce que Paul vient de dire en substance, la compréhension profonde du Christ et de Dieu, tout cela s'apprend et se construit en nous après notre conversion. Et lorsque Paul écrit aux chrétiens de Rome que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il veut dire que la parole de l'Évangile est indispensable à la connaissance du salut, à la conversion, mais que cette parole dont parle ici l'apôtre est bien celle qui illumine l'Esprit Saint. Pour le dire autrement, quoi que vous compreniez de Dieu avant cette illumination, vous n'allez en fait rien comprendre du tout. Au mieux, vous en allez avoir de Dieu une connaissance purement intellectuelle. Alors cette connaissance, cette parole qui doit être illuminée par l'Esprit Saint, elle est nécessaire comme matériau, comme matière, mais n'est pas suffisante pour connaître le Christ de la manière dont en parle Paul, par exemple, dans sa lettre aux Colossiens. Il dira d'ailleurs aussi dans sa lettre aux Philippiens, alors qu'il est en prison, et qu'il pense vraiment qu'il n'en sortira pas cette fois-ci, il dit « J'ai décidé de tout considérer comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non pas avec une connaissance qui viendrait de la loi, purement intellectuelle, mais avec une connaissance poussée par la foi. » Et il continuera en disant, et je paraphrase les trois versets qui suivent dans Philippiens, il continuera en disant que il a tout sacrifié en vue de connaître le Christ. Et le terme grec de cette connaissance est une connaissance intime. Tout ou rien n'est plus important pour Paul, et je pense qu'on est appelé à ça nous aussi, rien n'est plus important pour Paul que de connaître intensément, profondément son Seigneur et son Maître. Ce qui veut dire, mais ça je pense que nous l'aurons tous compris, que l'on n'est pas sauvé par la connaissance que l'on avait de Dieu, mais par sa grâce. Cette grâce qui trouve donc sa source en Dieu et qui est toute suffisante pour nous sauver, mais pas pour le connaître tel qu'il doit être connu. Un peu comme un nouveau-né, je faisais référence à ça tout à l'heure, un peu comme un nouveau-né qui, à la naissance, est posé dans les bras de sa mère. Pendant 9 mois, il a été nourri par elle in utero, jusqu'à ce que le jour de la naissance arrive. Le voilà dans les bras de cette mère qui lui a donné la vie. Il s'y sent bien, tout est nouveau pour lui, mais il ne sait rien d'elle, ni son nom, ni d'où elle vient, ni où elle va. Il ne connaît rien de son passé, ni de son histoire. Il est vivant grâce à elle et il le ressent, il le sait au plus profond de lui comme une douce évidence, mais il ne sait rien d'elle, il a tout à apprendre de celle qu'il aime. L'apprentissage de cette véritable connaissance de notre mère physique fait partie de notre croissance émotionnelle, intellectuelle et physique. De même, l'apprentissage de la véritable connaissance de Dieu fait partie de notre croissance spirituelle au travers de la parole de Dieu, par l'intermédiaire, de l'Esprit Saint. Tout ça signifie que l'on connaît Jésus, que l'on connaît le Christ, avant de connaître quoi que ce soit d'autre de Dieu. C'est d'abord lui que l'on connaît. La découverte que nous faisons de la vérité par Jésus-Christ s'opère en effet à partir d'une méconnaissance préalable. On ne sait rien avant ce moment-là. La conversion est toujours seconde par rapport à l'ordre naturel des choses, qui est que par nature, nous ne savons rien et ne pourrions rien savoir de Dieu ou de notre état de pécheur. Même si nous passions notre vie à étudier la Bible, vous avez bien entendu compris qu'on peut étudier la Bible, on peut même parfois devenir théologien sans découvrir dans la parole de Dieu le trésor qui est enfoui. Moi, j'ai lu beaucoup de théologiens, je pense entre autres aux théologiens allemands du 19e, c'est prodigieusement intelligent, hein. Prodigieusement intelligent. Mais ces gens n'ont pas trouvé Jésus. Ils n'ont pas trouvé Dieu dans l'Écriture. On ne trouve que ce que l'on cherche, mes amis. On cherche des informations dans la Bible, ben on obtient des informations, aussi poussées soient-elles. On cherche Dieu, ben, on découvre Dieu. C'est une promesse de Dieu d'ailleurs. Rappelez-vous Nicodème, on en a pas mal parlé hein, il y a quelques semaines de cela. L'homme qui vint voir Jésus de nuit pour obtenir quoi ? Des informations. Encore plus d'informations. Ben, cet homme était considéré en son temps comme un théologien, un spécialiste de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Et pourtant, que lui dira Jésus ? Tu es l'enseignant d'Israël, donc tu enseignes les autres, et tu ne connais pas tes choses. En fait, tu enseignes, tu as une connaissance intellectuelle, tu sais beaucoup de choses, mais tu ne sais rien de ce qui est vraiment important. Tu ne connais pas Dieu. Donc, de là l'importance d'aller plus loin dans l'étude de notre sujet, à savoir le Christ. Alors, vous allez me dire, mais à partir d'où ? Bah, ça ne va pas vous étonner, à partir de la Bible, bien entendu. Mais j'aimerais quand même dire que tout ça va à un intérêt. Pourquoi ? Parce que tous les chrétiens de la terre vont vous dire que Jésus se trouve dans l'Ancien Testament. Mais si vous leur demandez, comment peux-tu affirmer cela ? En termes d'interprétation des textes. Parce qu'un juif, il ne va pas voir Jésus dans l'Ancien Testament, hein. Donc simplement affirmer que Jésus s'y trouve, c'est bien. Mais il faut comment s'y trouve-t-il ? Comment s'y révèle-t-il ? Qu'est-ce qu'on peut affirmer de vrai au niveau interprétation des textes pour dire, voilà, là on parle effectivement de Jésus ? Ça, ce sont des questions qu'on essaiera de se poser. Si vous êtes encore là dimanche prochain, il ne vous êtes pas avec une mal au crâne d'ici là. Il faudra être courageux. La Bible est bien entendu le seul lieu fiable de la révélation que Christ fait de Dieu et de lui-même. On peut appuyer ça sur quoi ? Ben, sur la Bible, bien entendu. Et entre autres, j'ai pris cette parole-là, il y en a bien d'autres. Hein. Une des choses dont Jésus va le plus parler, c'est de parler de lui-même en tant que révélation de ce que l'Ancien Testament a annoncé. Le jour de la venue du Christ sur cette terre a été annoncé par bien des textes de l'Ancien Testament. Je vais prendre un verset. En Jean 5, 46, ce passage est tiré d'une controverse à nouveau sur le rapport au temps, parce que Jésus affirme qu'il était là avant qu'Abraham ne soit. Et là, les pharisiens ont un petit problème avec ça, parce que, en fait, il va terminer cette controverse en disant, avant, je vous le dis en vérité, il dit ça aux pharisiens, avant, référence à son éternité, hein, avant qu'Abraham soit, je suis. Non, mais c'est important. J'étais, il aurait pris pour un fou. En disant, je suis, il s'attribue la divinité. Et après, ils veulent le lapider. Pourquoi ? Parce qu'il a blasphémé. S'il avait simplement dit, j'étais, mais c'est, tu as raison, hein, ben, il aurait dit, vous voyez, c'est un cinglé, quoi. Il a 50 ans, 40 ans, 30 ans, on ne sait pas trop. Il dit qu'il était avant Abraham, il est fou. Par contre, disons, je suis, il s'attribue le nom de Dieu. Et là, il mérite la mort, d'après la loi, pour blasphème. En effet, si vous croyiez Moïse, donc si vous aviez cru Moïse, vous me croiriez aussi. Pourquoi ? Puisqu'il a écrit à mon sujet. Moïse a parlé de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ? Nous sommes donc invités par Jésus lui-même à le chercher dans l'Ancien Testament. Il dit que Moïse, entre autres, a parlé de lui. D'ailleurs, lorsque Jésus dit que Moïse a écrit à son sujet, il a probablement plusieurs textes en tête, si je peux me permettre l'expression. Là encore, il y a une... Je ne vais pas tous les prendre, rassurez-vous, on serait là pendant une semaine minimum. Alors, il y a bien sûr certains textes prophétiques, comme le tout premier, un petit verset qui se trouve dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, et on peut très bien lire ce verset sans comprendre toute la portée messianique qu'il contient. Genèse 3, 15, que je vais vous lire dans deux minutes, est la première promesse. On est dans la Genèse. C'est la première promesse de la venue d'un Messie pour régler le problème de l'homme, à savoir son péché et son incapacité d'être en relation avec Dieu. Ce péché qui vient de surgir quelques lignes plus tôt dans le texte biblique et dans l'histoire de l'humanité. Voilà ce que dit ce verset de Genèse 3,15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu s'adresse ici au serpent. Alors ce texte ne dit évidemment rien de la répulsion que les femmes auraient pour les serpents. Je ne supporte pas ces bêtes non plus. Et je pense ne pas être une femme. Par contre, ce verset parle bien de la sentence punitive réservée au serpent tentateur. Et cette sentence, c'est que sa fin est d'ores et déjà actée. Et cette fin viendra par celle qui l'a trompé, à savoir la femme. En effet, le Messie, qui mettra fin à la tragédie provoquée par cet être voué au mal et symbolisé par le serpent, viendra au monde par une femme au moyen de la reproduction naturelle. C'est pour cette raison que le texte nous parle de la descendance de la femme et non pas celle d'une seule d'entre elles, à savoir Marie, la mère de Jésus. Parce que c'est au travers de toutes les femmes qui engendreront les ancêtres de la lignée de David, donc de celle de Jésus, que le Messie va apparaître. Dieu ne va pas donc, et c'est une bonne nouvelle, hein, dès la Genèse, il ne va pas anéantir l'humanité à cause de la faute d'un seul, mais bien continuer son projet créationnel et de rédemption, afin que là où par la faute d'un seul, Adam, le péché est entré et a régné dans le monde, par la venue et la mort et la résurrection d'un seul, à savoir Jésus, la grâce entre dans le monde. Alors toujours concernant les textes prophétiques, on vient de voir le premier verset messianique de la Bible, toujours concernant les textes prophétiques relatifs à Moïse, puisque c'est de ça dont Jésus parle, et que Jésus a aussi à l'esprit sans doute dans le passage de l'Évangile de Jean, il y a aussi ce texte fondateur de Deutéronome 18, verset 15. Je suis certain que vous êtes des passionnés du Deutéronome. Je vous encourage quand même à aller lire le Deutéronome. C'est en fait la récapitulation de la loi de Moïse faite par Moïse avant que Moïse ne décède, avant que le peuple d'Israël ne rentre en terre promise. « L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, et c'est lui que vous devrez écouter. » Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est que Moïse ne fait pas référence ici à un prophète particulier, ce mot étant de toute évidence pris au sens collectif. Moïse parle du prophète que Dieu suscitera en son temps, à chaque période nécessaire de l'histoire de son peuple, pour répondre aux besoins de son peuple. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont concentrés dans cette appellation collective, donc un prophète. C'est l'hébreu qui permet de dire ça. Hein. Pas vous faire une exégèse dans l'hébreu, parce que là... Voilà. L'application spéciale de cette expression au Messie n'est vraie que dans le sens que la personne du Messie est la réalisation parfaite du ministère prophétique. Aussi bien d'ailleurs que de la réalité du sacerdoce. Pour le dire autrement, tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est la venue du Messie. C'était leur message, même si certains textes de la Bible disent qu'eux-mêmes ne se rendaient pas toujours compte de ce qu'ils annonçaient dans la plénitude des choses. Je veux dire autrement, aucun prophète de l'Ancien Testament ne s'imaginait que le Messie viendrait du ciel et de la terre. De la terre par la généalogie, par la reproduction naturelle, et du ciel parce que c'est son origine. Jésus étant et Dieu et homme. Donc tous les prophètes ont annoncé à leur manière, la venue du Messie, donc du Christ. Et pour être complet concernant cette parole de Jésus relative à Moïse en Jean 5, 46, il faut encore ajouter, et ça on ne le comprend pas toujours non plus, tout le système lévitique, vous voyez, tous les sacrifices dans le temple et dans le tabernacle, dans le désert au départ, les cérémonies, les symboliques du culte, qui avaient en vue la venue du futur libérateur du peuple de Dieu. Donc même toutes les règles sacrificielles du Lévitique, et peu de chrétiens lisent le Lévitique, hein, tu offriras pour l'Holocauste une telle bête, et tu feras ceci, et tu feras cela, et nous on lit ça en disant pfff, c'est tenteur de faire pfff, parce que en substance, tout ça annonce quoi? Le sacrifice futur du Messie pour le péché de son peuple. Relisez Hébreux, la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. C'est très lourd à lire aussi, beaucoup de chrétiens, oh moi j'y comprends, hein, ça me... Il explique en quoi, justement, tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient le sacrifice ultime et suffisant, à savoir celui du Messie. Donc l'incrédulité, le manque de foi ou l'absence de foi envers Moïse et ses écrits dit Jésus, avait pour conséquence nécessaire l'incrédulité envers Jésus et ses paroles. Vous ne croyez pas aux gens qui annoncent la venue du Christ, vous ne croirez pas non plus aux paroles du Christ. C'est ce qu'il dit aux pharisiens. Vous n'avez pas cru aux écrits de Moïse, vous ne croirez pas en mes paroles non plus. Parce que Moïse, il parlait de moi. Déjà. Endurcir sa conscience et son cœur en présence de la loi de Moïse, qui doit produire la repentance, et pour qu'il y ait repentance et demande de pardon à Dieu, il faut qu'il y ait ouverture du cœur. Eh bien, ne pas s'ouvrir à ce que dit Dieu dans la loi de Moïse, c'est endurcir aussi son cœur envers celui qui annonce la grâce et le salut de Dieu. Rappelez-vous, la loi est donnée comme un miroir à Israël, hein, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont imparfaits, pécheurs, et qu'ils ont besoin d'un sauveur. En un mot, l'incrédulité, il ne faut pas en vouloir aux Juifs, nous sommes pareils. Hein. En un mot, l'incrédulité est un état moral qui rend tout simplement l'homme incapable de saisir les manifestations de la vérité et de la miséricorde divine. Encore une fois, sans révélation de Dieu, sans illumination de l'esprit, on peut vous parler de Dieu pendant 100 ans, vous ne croirez pas. Telle est la conclusion accablante de ce que dit la loi de Moïse et Jésus, et la confirmation de ce que je vous disais dans mon introduction tout à l'heure concernant cette nécessité absolue du ministère de l'Esprit-Saint. Au travers de cette parole de Jésus, en Jean 5, 46, et de son application, nous pouvons donc affirmer que l'Ancien Testament est, on approfondira ça la semaine prochaine, mais est christocentrique, qu'il pointe vers le Christ, qu'il montre le Christ. Je vous propose malgré tout de nous poser un instant, n'allons pas trop vite en besogne, et prenons le temps de la réflexion. Ces deux exemples n'étant qu'une légère mise en bouche, n'est-ce pas ? Vous êtes contents, là ? C'est un apéritif dînatoire, ça. Quand on parle de l'incarnation, de la présence du Fils, deuxième personne de la Trinité, et d'une nature humaine dans la personne de Jésus de Nazareth, on parle d'une présence, d'une incarnation qui n'est pas abstraite, c'est-à-dire qu'il se ferait en un instant, de manière magique et inopinée, mais bien d'une vraie durée liée au temps et à l'espace avec ses liens au passé, c'est-à-dire à l'histoire. Je m'explique. Jésus-Christ n'a pas frôlé la terre comme une comète. Il n'est pas tombé du ciel comme un astéroïde. Sa mission a suivi une préparation. Et cette mission s'est insérée dans une lignée et s'est déroulé dans la succession de plusieurs étapes, de plusieurs généalogies d'hommes et de femmes bien réelles. Et c'est là l'une des portées des deux généalogies que l'on trouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Et ces généalogies nous embêtent, on les passe quand on lit. C'est un tort, parce qu'elles disent quelque chose. La première portée dans l'évangile de Luc, la généalogie de Luc, est de démontrer que Jésus est bien le descendant d'Adam en humanité, qu'il était bien un homme. Et celui de la généalogie de Matthieu manifeste que Jésus est bien le descendant de David, du roi d'Israël. Et il a donc, Jésus, en tant que juif, il a le droit de revendiquer le trône d'Israël. La seconde portée est celle qui nous intéresse particulièrement puisqu'elle est théologique. En effet, c'est Dieu, je sais bien que c'est fou, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui s'incarne au travers des généalogies humaines. Il s'insère dans la trame de l'histoire des hommes. Pourquoi a-t-il choisi ce moyen de se révéler ? Pourquoi est-ce qu'il s'est contraint à passer par ces générations pour arriver à s'incarner dans le Christ ? Pourquoi est-ce qu'il a suivi ce chemin-là ? Eh bien, parce que l'incarnation de Jésus dans l'histoire des hommes, c'est cette incarnation dans l'histoire des hommes qui va permettre la révélation du salut dans l'histoire, mes amis. Si Jésus n'a pas d'histoire, nous n'avons pas de salut. C'est ça que ça veut dire. Réfléchissons un instant. Qu'aurait pu dire Jésus aux hommes sans être passé lui-même ce par où passent tous les hommes ? Qu'aurions-nous fait d'un simple magicien, démiurge ? Sans passé, sans ancêtre, sans racine humaine commune, on en aura fait quoi ? Qu'aurions-nous bien pu faire d'un pur extraterrestre, c'est le cas de le dire, atterrissant sur Terre comme une soucoupe volante? On aurait dit que c'était un fou, ce mec-là. Alors, si c'est vrai, si Dieu s'est incarné et inséré dans les généalogies humaines, la préparation de cette venue a obligatoirement consisté d'abord en annonces faites d'avance par des prophètes. Des annonces directes ou indirectes, plus ou moins voilées, plus ou moins solidaires entre elles, autrement dit en lien avec des dispositions que Dieu avait prises dans son alliance avec les hommes du passé, mais concernant déjà le Christ. Donc Jésus a donc commencé à être révélé avant de paraître sur la terre au long d'un processus émaillé de progrès par rapport à la communication de la parole de Dieu. Dieu a dit de plus en plus de choses concernant le Christ, concernant son Messie, au fur et à mesure que cette révélation avançait, petit pas par petit pas, au travers de l'histoire des hommes et au travers en particulier de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la venue effective du Christ sur la terre. Dieu était un grand pédagogue, il n'allait pas du jour au lendemain débarquer au milieu de nous. Il nous a préparés pédagogiquement à travers l'histoire d'un peuple, et ce peuple est Israël. Alors quand je dis que la révélation est progressive, je ne parle pas de progressivité dans le degré de vérité. Toute la parole de Dieu est vérité. Mais bien la richesse et la clarté des enseignements, ça se clarifie de plus en plus au fur et à mesure que ça avance. J'ai pris le premier verset de Genèse 3,15. C'est clair, mais... il faut bien que des fous, comme Blocher et d'autres, depuis des milliers d'années, commencent à potasser les textes. Maintenant, au fur et à mesure qu'on révèle les choses, que Dieu révèle les choses dans sa parole, des choses deviennent quand même relativement claires, de plus en plus claires, jusqu'à la clarté absolue, qui est la lumière du monde, qui est le Christ. On va prendre un autre texte qui dit ça, en fait. Il dit en deux versets ce que je suis en train de dire depuis un petit temps déjà. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres. Comment ? Mais par les prophètes. Dans ces jours qui sont les derniers jours, je vous rappelle ce que c'est. C'est l'écart, c'est la période qui va de l'ascension de Jésus, le retour du Christ à la droite de son Père dans les lieux célestes, jusqu'à sa seconde venue, la parousie. Parousie qui veut dire apparition, la parousie, où il va revenir en gloire. C'est ça les derniers jours. Mais c'est important à comprendre. Les derniers jours, ce n'est pas « Oh, il revient aujourd'hui », c'est la période d'attente de son retour. Donc je reprends le verset. « Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Petite parenthèse, ces deux petits versets explicitent aussi pourquoi en tant que chrétiens, nous n'acceptons plus aucune révélation après le Christ. Dieu a parlé par son Fils, qui est le sommet de la révélation de Dieu. Pour ça, moi, je respectais infiniment les musulmans, mais Mohammed, il est bien gentil, mais on ne va pas commencer avec un homme, alors qu'on vient de terminer la révélation quelques siècles plus tôt, 6 siècles pour être précis, avec le Fils de Dieu lui-même. Il vient un peu trop tard, lui et d'autres. D'accord ? Il y a ici affirmation de la progressivité de la révélation de Dieu au travers de l'histoire et de la trame biblique, avec pour point culminant, c'est ce que dit l'auteur, le Christ lui-même. Si on prenait les versets qui suivent, on ne le fera pas aujourd'hui, mais on verrait qu'il ne se trompe pas. On aurait pris donc les versets qui suivent, on aurait vu que l'auteur va de plus en plus concentrer et dire voilà, tel texte, de telle manière, vraiment que le Christ est présent et annoncé dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, la venue de Jésus-Christ en ce monde marque, et même un athée doit admettre ça, marque la césure principale de l'histoire. Même pour un profane, quelqu'un qui ne croit pas. Et c'est la ligne de partage. Dorénavant, l'histoire de l'homme sera divisée en avant et après Jésus-Christ. Alors, ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est que les textes de la loi, les écrits des prophètes et les autres écrits bibliques contenus dans l'Ancien Testament visent, au-delà des dispositions en vigueur à l'époque de leur rédaction, un avenir autre et que ce qui était futur pour eux est avenu, est apparu en Jésus. Alors, petit exemple parmi d'autres, il semble en effet évident que les prêtres, les lévites qui offraient et officiaient dans le temple au niveau des sacrifices, quand ils offraient des sacrifices, en suivant les règles lévitiques édictées par Moïse dans le temple de Jérusalem, n'avait bien entendu aucune conscience qu'à travers ces sacrifices, ce qu'ils faisaient tous les jours de leur vie, ils annonçaient le sacrifice du Messie à venir en vue du péché du monde. Hein, ça, c'est clair. Enfin, la majorité, peut-être qu'il y en a certains qui étaient illuminés quand même un petit peu de l'intérieur, qui comprenaient peut-être quelque chose. C'est clair que c'était voilé. Et la Bible elle-même dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était en quelque sorte encore voilé. Ils distinguaient sans distinguer. Même les prophètes, hein, ils annonçaient un truc qui distinguait, mais pas tout à fait. Et l'auteur de l'Esprit des Hébreux, dans son chapitre 11 de sa lettre, dira d'ailleurs qu'en citant tous les hommes de foi de l'Ancien Testament, ils ont tous aspiré à ce que vous connaissez. Ils ont tous pleuré après l'avènement du Christ. Et vous, vous avez vu cet avènement, pour certains d'entre vous qui étaient encore vivants à l'époque. Hein. Rappelez-vous, quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit qu'il y a encore 500 témoins oculaires de la résurrection du Christ qui sont vivants et consultables. Hein. Et je rappelle pour ceux qui doutent que les hallucinations collectives, ça n'existe pas. Demandez à un psychiatre, un neuropsychiatre, ça n'existe pas. Hein. C'est privé des hallucinations, c'est jamais collectif. Hein. Tout cela revient à dire que l'Ancien Testament est soit chrétien, soit il porte en lui le Christ et le révèle, soit il n'est pas l'Ancien Testament. Il ne porte plus dès lors que le nom que lui donnent les Juifs, le Tanakh. Ce mot est la contraction de trois termes, Torah, les cinq livres de Moïse, Nevi'im et Tekoubim, la loi, les prophètes et les écrits, le Tanakh. Si l'Ancien Testament ne contient pas le Christ, s'il ne parle pas du Christ, s'il ne montre pas sa venue, s'il ne pointe pas dans sa direction, il n'est pas l'Ancien Testament, puisqu'il n'est ancien que dans la mesure où le testateur, celui qui l'a écrit, est mort pour en écrire un autre, le nouveau. Pour dire autrement, quand la promesse est là, le Christ, le livre qui annonçait sa venue devient passé, ancien, dépassé. Commencez à comprendre pourquoi il y a si peu d'inscrits dans les facs de théologie. Il y a des chrétiens qui y vont, et puis il reste une semaine. Et puis, au secours, au secours. Mais la parole de Dieu est claire, hein, mes amis. Moi, je ne le suis peut-être pas beaucoup, ou pas ce matin, mais la parole elle est claire. Un autre texte, justement, deux autres versets dans Hébreux 9, 16, 17. En effet, là, il y a un testament, et il y en a un, si il est christocentrique. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il fallait que Jésus meure. Ok ? Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. Tant que Jésus n'était pas venu, l'Ancien Testament, il vivait, normal. Il annonçait celui qui devenait, une fois que celui qui devenait vient, et qu'il meurt pour réaliser l'ancien, il devient caduc, et il ouvre un nouveau, il en écrit un nouveau. Paul utilisera une autre image dans sa lettre à l'église de Rome pour parler de la même réalité. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus que cette histoire du Testament. Voilà ce qu'il dit, Romains 7, 1 à 3. « Ignorez-vous, frères et sœurs, et je parle ici à des gens qui connaissent la loi de Moïse, que la loi de Moïse n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. » Il va donner un exemple. « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. » Elle est veuve, elle peut se remarier. C'est ça le principe. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. C'est la même mécanique, c'est la même illustration. D'accord ? Avant d'attaquer les modalités nous permettant d'interpréter christologiquement l'Ancien Testament, commençons par le Nouveau. Je terminerai par ça, brièvement, par rapport au Nouveau, parce que ça va aller plus vite, normalement. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait de grandes et de hautes études théologiques pour dire qu'en lisant le Nouveau Testament, on en ressort convaincu d'au moins une chose. C'est que Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens ont affirmé que l'attente d'Israël était complète en lui, que ce que attendait Israël était réalisé en Jésus. Ça, lire le Nouveau Testament et pas comprendre ça, ça va se demander comment on le lit. Voilà. Ça, c'est clair. C'est même clair pour les Juifs qui liraient le Nouveau Testament, hein, même ceux qui ne croient pas en Jésus. Il dirait, ben oui, dans le Nouveau Testament enseigne que en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu s'est révélé. Bien avant que Jésus ressuscité ne donne en personne une étude biblique à deux de ses disciples retournant chez eux à Emmaüs, en prenant la loi, les prophètes et les écrits de l'Ancien Testament, le concernant à témoin, il avait souligné déjà le témoignage de la loi et des prophètes, on l'a vu en Jean 5. Mais rappelez-vous de cet épisode, de ce que le Christ dit aux deux disciples d'Emmaüs, à ses disciples, deux de ses disciples, le jour même de sa résurrection. Il retourne à Emmaüs, qui était un bled à 35 km de Jérusalem, tout triste, parce que leur maître a été crucifié. Et Jésus les rejoint sur la route, ils ne le reconnaissent pas. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'on dit quoi? Les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, ça c'est intéressant, en commençant par les écrits de Moïse, la loi, et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est parti, il a pris tout l'Ancien Testament et leur a rappelé que tout ça, ça menait à lui. Étude biblique, life, Jésus himself, le pied quoi. 35 bornes il avait eu Jésus pour les enseigner. Heureux Jésus. Dès le début de son ministère, il avait annoncé l'accomplissement de ce qui avait été écrit. Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire, premier discours public de Jésus, dans la synagogue, dans sa ville natale de Nazareth, on lui tend le livre du prophète Ésaïe, le rouleau. Il l'ouvre et il annonce cette parole prophétique. Je vous annonce un temps de libération et de rafraîchissement pour le peuple, un temps où les aveugles verront, etc., etc. Il referme le rouleau et il lit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je suis là, c'est moi. C'est de moi que parle ce passage. » C'est d'ailleurs pour ça, juste après, qu'il a un petit problème avec les gens qui ont entendu ça. « N'est-ce pas le frère de Joseph, le fils de Joseph ? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ?» Ouais, voilà. L'action n'est peut-être pas très bon, hein, mais c'est l'idée. Mais il a aussi explicité le but de sa mission. Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comment pourrait-il abolir la loi de Moïse et les prophètes, puisque c'est lui qu'annonce la loi et les prophètes ? Il est venu accomplir. C'est moi. » Voilà. Si l'on considère ensuite l'enseignement des apôtres, il est clair que pour l'instruction des chrétiens, aussi bien que pour l'évangélisation du monde, leur enseignement reflète leur certitude qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Et que dire de l'Apocalypse, qu'aucun d'entre vous ne lit ? Cette mosaïque de citations et de références à l'Ancien Testament. Relisez les épîtres de Paul, bien sûr, il y a un argument théologique, rhétorique extraordinaire, mais souvent, quand potentiellement, il y a des juifs qui entendent. Ils reprennent tous des textes de l'Ancien Testament et les réactualisent en disant « c'est en Jésus que ça s'accomplit tout ça ». Même l'Apocalypse. Pour terminer, j'aimerais encore dire ceci brièvement. Je pense qu'il faut se rendre compte de la distance qui existait et qui existe encore entre la lecture juive, puisqu'on parle de l'Ancien Testament, et pharisienne pour le temps de Jésus, par exemple, de l'Ancien Testament, et la lecture chrétienne de celui-ci. Et cette distance, aujourd'hui encore, au moment où je parle, est considérable. On a les mêmes textes, on ne les lit pas de la même manière, forcément. Les pharisiens privilégient la loi et s'intéressent presque exclusivement aux directives pour la pratique. Et c'est à ma connaissance toujours le cas de nos jours dans les milieux juifs pieux, ceux qui ne font pas semblant seulement, qui essayent d'obéir parfaitement à la loi de Moïse. Les rabbins sont des juges de la pratique. On vient les consulter. Rabbin, j'ai consommé un litre de lait non kasher qu'un goïm, un non-juif, a fait rentrer dans ma maison. Dois-je en vouloir à mort à ce goïm ? Et suivant le rabbin, vous aurez une réponse. Donc, c'est caricatural ce que je dis, mais. Donc, l'Ancien Testament est devenu pour eux un manuel de pratique religieuse. Donc, ils ne considèrent ou ne prennent plus en compte quasi la dimension prophétique. Ils ne planchent plus, pour la plupart des rabbins aujourd'hui, ils ne planchent plus sur la venue de leur Messie. Il y a eu des traumatismes qui expliquent ça, l'instruction du temple. Tout est basé là-dessus, et puis on vous enlève votre jouet pour les sacrifices. Vous faites quoi Ils auraient dû se dire, ah, c'est Dieu venir dire quelque chose. Ah ben non, on a été répandu sur la surface du monde pour offrir la Torah à tous les peuples. Bon, c'est gentil. Mais il n'y a plus d'attente prophétique vraiment réalisée. Donc, ce qui signifie que les deux groupes, les juifs et les chrétiens, travaillent les mêmes textes concernant l'Ancien Testament, bien sûr, mais n'y discernent pas, du tout les mêmes choses, mais vraiment pas du tout. Alors, on pourrait résumer cela en disant que les uns ont trouvé leur trésor dans le champ de l'Écriture. Nous, on a trouvé le trésor qui se cachait dans le champ. Et que les autres sont passés à côté, et peut-être certains d'entre eux cherchent-ils, et je le crois, encore leur trésor. Et il faut prier Dieu pour qu'ils le trouvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les juifs messianiques, des juifs qui reconnaissent que Yeshua est leur Messie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas parmi nous, donc il faudra quand même qu'ils suivent un petit cours d'ecclésiologie relatif à l'Église, parce qu'ils devraient être parmi nous, ces juifs convertis, et pas former un groupe à part. Comme les églises africaines, comme les églises italiennes, comme les églises espagnoles, où on se réunit par rapport à affinité culturelle et pas par rapport à la centralité du Christ dans nos vies. Donc s'il y avait des schtroumpfs dans la rue, ils devraient faire partie de l'église. Parce que du bleu, ça manque un peu, des bleus. Des noirs, des blancs, des verts, sur la limite, mais des bleus. Alors nous continuerons la semaine prochaine, je suis certain que vous serez heureux de l'apprendre. Et nous attacherons à fixer une méthode, si on peut dire ça comme ça, permettant sans trahir le texte biblique, sans tirer dessus pour faire entrer Jésus dedans, donc sans trahir le texte biblique, pour discerner en celui-ci, dans le texte, la présence du Christ. Et on prendra au moins deux exemples de textes où je vais vous expliquer comment et pourquoi on doit voir la présence de Jésus dans ces textes. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir eu cette patience et qu'il bénisse sa parole. Amen.